Économie intuitive, le podcast qui aide à trouver sa place dans un monde qui change. Salut, moi c'est Lucie Diaz et depuis 4 ans, j'accompagne les multipotentiels en quête de sens. J'écoute les hypersensibles qui cherchent leur mission de vie. J'aide les entrepreneurs à trouver leurs intuitions, les suivre, parce que je crois et j'espère que nous sommes dans une transition vers une société qui fait de plus en plus sens. Attention à tes données internet. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de la sécurité des données sur internet, sujet crucial quand on a une entreprise absolument dématérialisée. Moi, c'est le cas. Toute mon entreprise rentre encore et toujours dans mon sac à dos de digital nomade de 1900-2016. Et donc toutes mes données informatiques sont clairement soit dans mon ordinateur, soit dans mon disque dur externe, et en l'occurrence il y a peu d'informations là-dedans, soit dans le cloud, et là par contre j'ai beaucoup d'informations et il faut faire très attention. Alors je vais te partager quelques petites expériences malheureuses que j'ai eues, qui heureusement n'ont jamais été très graves, mais qui aurait pu beaucoup plus mal tourner, et j'ai envie de t'en parler aujourd'hui pour remettre encore une fois l'accent sur la sécurité des données. C'est un sujet que j'aborde dans mon entourage minimum une fois tous les 6 mois ou une fois par an. Je leur redemande régulièrement, est-ce qu'ils ont bien activé tout ce qu'il faut comme d'habitude, et puis je me rends compte qu'ils l'ont toujours pas fait, etc. Donc je resensibilise beaucoup, et malgré ça, je ne suis pas moi-même à l'abri, donc je vais t'expliquer tous mes petits déboires, et j'espère que tu pourras en tirer des conclusions. L'idée, c'est de te partager mon expérience pour pas que tu tombes toi aussi dans les mêmes pièges. Alors, on pourrait commencer par ne pas stocker les données sur le cloud. Ok, le cloud, alors moi je travaillais dans la transformation digitale depuis 2013. Je travaillais notamment pour Google et j'aidais les entreprises à passer dans le cloud. Et alors à l'époque, il y avait eu pas mal de scandales sur les photos de nudité de certaines célébrités qui s'étaient retrouvées sur le cloud et sur internet. Bon, en fait, c'était pas vraiment sur le cloud, mais bon, il y avait eu des espèces d'amalgames comme ça qui s'étaient passées, et donc les gens étaient très méfiants à mettre leurs données sur le cloud. Et alors moi, c'est exactement à cette époque-là que j'habitais à l'époque à Montmartre, en colocation, et on a eu une coupure d'électricité, je ne sais plus pour quelle raison. Et du coup, moi qui écoutais toujours la musique sur YouTube à l'époque, je pouvais plus mettre de musique pour l'écouter dans ma cuisine. Et donc, je me souviens, j'avais mon cousin à manger, enfin qui était venu manger ce jour-là. Donc pour faire la cuisine, j'avais branché mon disque dur externe sur lequel j'avais beaucoup de musique. Et toutes les photos de mon ordinateur qui étaient aussi stockées sur mon disque dur externe. On branche le disque dur sur l'ordinateur, on commence à écouter la musique, on fait la cuisine. Et puis au moment de passer à table, on déplace l'ordinateur. Et là, le disque dur externe tombe par terre. Inutilisable. Toutes les données qui étaient sur mon disque dur externe étaient perdues. Heureusement que mon ordinateur contenait les mêmes informations, donc j'ai pas vraiment perdu de photos à cette époque-là, j'ai juste perdu de la musique, mais c'était pas très grave. Et donc c'est là que je me suis dit, watch, un cloud sur internet, c'est quand même plus sûr que les petits accidents de la vie quotidienne. On a vite fait de renverser un thé sur son ordinateur, on a vite fait de laisser tomber un disque dur externe par terre ou de se faire voler un sac à dos avec toutes nos données dedans. Donc attention, et voilà, l'idée c'est si jamais ton matériel est dégradé, volé, inutilisable, comment est-ce que tu fais pour immédiatement pouvoir te remettre au travail, retrouver tes informations facilement et enchaîner sur un nouvel outil. Donc moi maintenant, c'est entièrement le cas. J'ai quelques données, par exemple mes fichiers très très lourds, mes fichiers vidéo, j'en ai quelques-uns qui sont stockés sur mon disque dur externe. Encore que ça fait 1 ou 2 ans maintenant que je stocke sur mon Dropbox. J'ai arrêté de me balader partout avec mon disque dur externe, et donc j'ai plus vraiment d'informations importantes aujourd'hui dans mon disque dur externe. Voilà, ça c'était le premier déboire. Deuxième, quand on ouvre son entreprise, on reçoit des courriers malveillants nous disant des choses du type il faut régler 500 euros d'ici demain pour que votre entreprise déclare bien machin truc. Donc là, il faut faire attention à tout ça. Et pareil pour les numéros de téléphone. Des fois, il y a des numéros de téléphone un peu bizarres qui nous appellent. Moi, je Google à chaque fois le nom de la personne qui m'envoie ce courrier ou le numéro de téléphone. Et puis, grâce à ce fabuleux moteur de recherche, j'arrive très rapidement à la conclusion que c'est une tentative de phishing, de piratage, de détournement, de voilà, enfin, en tout cas, c'est pas une source fiable, donc je fais pas attention à ça. Mais j'ai eu une fois un mail qui m'a un peu perturbée. Et franchement, j'ai eu une montée d'adrénaline. Wouh! hyper chaude, c'était vraiment compliqué. Là, je me souviens, j'étais chez mes parents et je reçois un mail me disant que ils avaient obtenu des informations compromettantes de ma part et qu'ils allaient envoyer ça à tout mon fichier client. Et là, le mail était envoyé depuis ma propre adresse mail. Alors, moi, j'ai essayé de réfléchir un peu, des informations compromettantes. Je voyais pas trop ce que ça pouvait être, mais bon, on me menace, ok, donc on sait pas trop comment. Et bien, alors, une fois que le mécanisme du stress est emballé, c'est fini, quoi. Et puis, moi, tous mes clients, ils sont dans ma liste de mails sur Mailchimp, donc voilà. En fait, c'était une tentative d'intimidation. La personne n'avait aucune information sur moi. Elle a juste réussi à rédiger un mail en me faisant croire qu'elle l'avait envoyé depuis ma propre adresse email, mais en fait, ce n'était pas possible. Et donc, elle me demandait bien évidemment une rançon de 1000 euros en bitcoin, machin et truc. Donc, c'était bien, elle avait bien préparé son coup. Pourquoi c'était pas possible d'envoyer un mail depuis mon adresse mail? Tout simplement parce que depuis 2013, j'ai paramétré sur mon compte Gmail la double vérification. C'est-à-dire que pour te connecter à mon adresse Gmail, il faut que tu aies mon adresse Gmail, mon mot de passe, bon, mais ça, à la limite, c'est assez facile à obtenir. Et puis après, il faut aussi que tu aies mon téléphone dans ta poche pour avoir le code à 6 chiffres qui change toutes les 45 secondes. Et là, c'est quand même un peu plus compliqué, puisque moi, j'avais mon téléphone dans ma main, et que j'étais dans un endroit où... Enfin, j'étais au fin fond de la campagne, donc il y avait visiblement personne d'autre dans la maison, ni sur la colline, avec nous, donc c'était pas possible que quelqu'un ait eu accès. Et puis après, bon, on reçoit bien évidemment toutes les notifications si quelqu'un s'est connecté à notre compte, etc. Donc en fait, c'était vraiment juste une pure... tentative d'intimidation qui a marché pendant une heure ou deux, j'ai vraiment bien flippé. Je n'ai rien fait, bien entendu, j'ai surtout pas viré l'argent sur le compte de la rançon. Et je me suis calmée, j'ai appelé mon cousin encore une fois. et puis on a bien checké tout ça et on a compris le truc. Mais là, du coup, ce qui m'a donné finalement des ressources à ce moment-là, c'était d'avoir cette double vérification. Le fait d'être sûr que personne ne peut se connecter à mon compte Gmail tant qu'ils n'ont pas mon téléphone dans la poche, quoi, par exemple. Donc on pourra peut-être approfondir un peu plus cette histoire de Google Authentificator. Mais bon, allez, faisons-le maintenant. C'est une application que tu peux installer sur ton téléphone qui s'appelle Google Authentificator. Qui permet de générer des codes à 6 chiffres toutes les 45 secondes. Et ça, tu peux l'activer. C'est un service gratuit que tu peux activer sur plein de services. Donc sur ton adresse Gmail, donc pour accéder à toutes tes informations Google, pour ton adresse Facebook, qui du coup donne accès à tes campagnes de publicité Facebook ou à ton compte Instagram Pro aussi. Ça peut être activé sur ton compte Instagram. Pardon, sur ton compte Amazon. Et donc, si tu es revendeur Amazon, ça peut être quelque chose d'assez critique aussi pour toi. Tout ce qui est PayPal, Lydia, tu peux l'utiliser. Tes comptes chez OVH, donc tous les noms de domaine de tes sites internet, les hébergements de tes sites internet peuvent être protégés aussi par la double vérification de Google Authentificator. Et il y en a plein d'autres. Il y a MailChimp, il y a Dropbox, il y a les crypto-monnaies peuvent être aussi renforcées par ça. Bon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de services qui sont utilisés avec cette double authentification de Google Authenticator. Une autre possibilité, c'est de recevoir le code à 6 chiffres par SMS. Mais même les banques aujourd'hui sont en train de délaisser l'authentification par SMS parce que c'est moins fiable que des données cryptées comme ça sur une application. Donc moi, je recommanderais pas les vérifications par SMS parce que de toute façon, ça commence à tomber en désuétude. Ce qui est très bien dans Google Authenticator, si comme moi, tu as un téléphone qui est dans une ville qui ne capte pas la 3G, la 4G, la 5G, mais que ton ordinateur est quand même connecté à Internet et que tu as besoin d'accéder sur un nouvel ordinateur à ton Gmail, cette application n'a pas besoin d'être connectée à Internet. Ça marche même en hors connexion. Donc ça, c'est quand même assez top. Et si vraiment, par exemple, ton téléphone disparaît, est volé, détruit, etc., tu peux quand même t'imprimer un certain paquet de codes de sauvegarde que tu vas stocker sous ton matelas, dans ton armoire, quelque part dans ton coffre à la banque, quelque part top secret, mais qui en tout cas te permettent de te connecter à ton compte Gmail. Et si les gens tombent juste sur ces codes à 6 chiffres et qu'ils savent pas à quoi ils servent, ça va leur servir à rien parce que ces codes à 6 chiffres ne sont utiles que quand on a ton adresse mail et ton mot de passe pour ton Gmail, par exemple. Donc c'est un système qui est un peu complexe, c'est complexe peut-être à comprendre une fois pour toutes, à mettre en place ça prend moins de 10 minutes, je l'ai encore fait récemment avec une amie, c'est assez rapide, pour le faire par exemple si tu veux aller dans Gmail, tu cliques en haut à droite sur ta fiche, sur ta petite photo, gérer le compte Google. Ensuite, tu vas dans « Sécurité ». Puis, tu vas dans « Connexion à Google, validation en deux étapes ». Là, si elle est désactivée, ben, tu l'actives. On te demande ton mot de passe pour vérifier qui tu es. Et là, tu peux... Voilà, tu as différentes modalités. Moi, je te conseille d'imprimer les codes de secours et puis surtout d'activer Google Authenticator, l'application sur ton téléphone. Et il va te demander, depuis l'application de ton téléphone, de scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. Et ensuite, pour vérifier, il te demande de taper sur ordinateur le code qui est sur ton téléphone. Voilà, c'est assez simple, ça prend moins de 10 minutes, vraiment peut-être 4-5 minutes. Voilà, ce qui prend juste du temps, c'est de le faire sur tous tes services qui sont vraiment importants. Donc à toi de voir dans ta vie c'est où les sites internet où tu as le plus d'informations. Et moi je ne l'avais pas activé sur Facebook parce que je considérais depuis quelques mois que Facebook n'était pas vraiment quelque chose d'important dans ma vie. Donc moi là où j'ai stocké mes données importantes c'est dans mon compte Google, dans mon Dropbox, dans mon MailChimp, dans mon site internet. Tout ça c'est bien sécurisé par la double vérification. Et puis c'est d'ailleurs une des réglementations de la loi RGPD, c'est comme je stocke des données de mes clients, il faut que ces données soient sécurisées, qu'elles soient pas accessibles par n'importe qui. Mais j'avais pas pensé peut-être à mettre la double vérification sur mon compte Facebook. Et du coup, ce mois de septembre, comme tu l'as peut-être vu la semaine dernière, j'en ai parlé sur Instagram, je me suis fait pirater mon compte Facebook. Donc il y a quelqu'un qui s'est connecté à mes identifiants. Je crois savoir comment ils ont obtenu mes identifiants. Cette personne s'est connectée avec mes identifiants sur Facebook. Elle a rajouté deux personnes que je ne connais pas dans mes amis Facebook. Et puis a nommé ces deux personnes comme administrateurs de la page Facebook que j'avais créée qui s'appelle Économie Intuitive. Et ils m'ont enlevé des administrateurs de Économie Intuitive, la page Facebook de mon entreprise. Comme j'étais la seule administratrice, eh bien, je ne suis plus administratrice. Et du coup, maintenant, c'est eux. Donc, cette page ne m'appartient plus. Et alors, ce qu'ils auraient pu faire, c'est peut-être utiliser la connexion qu'il y a avec mon compte PayPal pour faire des publicités. Ça aurait été assez intelligent de leur part. Ils l'ont pas fait, peut-être parce que j'ai déconnecté mon compte PayPal tout de suite quand j'ai vu que j'avais été piratée sur mon compte Facebook. J'ai déconnecté le moyen de paiement des publicités pour parce qu'à ce moment-là, j'avais une petite campagne. Et donc ils ont pas fait de publicité avec mon compte Facebook. Sauf que depuis le mois de septembre, j'ai un petit peu bataillé avec Facebook. Je leur envoyais plein de mails pour leur dire que c'est une usurpation d'identité, ça ne rentre pas dans les cases. Je leur ai dit que c'est quelqu'un qui m'a volé clairement ma page, en fait. C'est un petit peu comme si je travaillais dans une boulangerie et puis c'était quelqu'un qui venait et qui changeait les serrures et puis d'un coup, je suis plus propriétaire de ma boulangerie, quoi. Bon, j'ai eu un peu le sentiment qu'on m'a piqué ma page. Bon, il n'y avait que 500 inscrits à cette page-là. Et c'est pas très grave parce que du coup c'est pas du tout le réseau social que j'utilisais le plus. J'utilise beaucoup plus Instagram et encore plus Mailchimp et YouTube. Donc bon, c'était pas une très grande perte. J'ai quand même eu besoin de quelques mois pour digérer ce coup, faire mon deuil de cette page Facebook et puis comprendre que Facebook n'allait pas me venir en aide sur ce coup-là. Et donc ça y est, je me suis motivée à enfin ouvrir une nouvelle page Facebook qui s'appelle maintenant Économie Intuitive Podcast. Donc je te mettrai le lien en description et si tu veux me soutenir, je te remercie de mettre un petit like sur cette page-là et éventuellement de te désabonner de l'ancienne page Facebook. Voilà, c'était pour te partager un petit peu ces petites déboires. Donc comment j'aurais pu éviter ça? Tout simplement en mettant la double vérification sur mon compte Facebook. Mais je l'avais pas fait! Je m'en suis mordu les doigts. Franchement, j'ai mis 4 mois pour, pour m'en remettre. Mais bon, tout va bien. J'ai quand même sauvé les meubles. Il n'y a pas eu mort d'homme ni de femme. Voilà. Donc si ton compte Facebook est quelque chose d'important pour toi... qu'il y a des données stratégiques, que c'est quelque chose que tu tiens à cœur, je t'encourage à le sécuriser d'autant plus. Surtout que de nos jours, avec les partenariats, on peut avoir des facilités aussi à partager assez facilement des mots de passe, des machins, des trucs. Pense à modifier régulièrement tes mots de passe. Pense à faire le tour de tes mots de passe, de vérifier que t'as des mails de récupération, de vérifier que t'as des SMS possibles de récupération, qu'il n'y a pas d'autres ordinateurs. Par exemple, si tu t'es connecté depuis l'ordinateur d'un collègue, pense aussi à les déconnecter de tes différents réseaux. Pour sécuriser tes données, c'est important pour toi, c'est important pour ton business, mais c'est aussi une obligation légale en fait envers tes clients. Parce que tu as des données de tes clients et elles sont importantes et il ne faut pas les mettre, les exposer en fait par un manque de sauvegarde. Voilà. Voilà. C'est tout ce que... Je pense que j'ai fait tout le tour de ce que je voulais te dire aujourd'hui. C'est un sujet qui n'est pas sexy. C'est un sujet sur lequel je reviens régulièrement à la charge auprès de mon entourage. À chaque fois que je me fais une peur bleue comme ça, une espèce de frayeur, je resensibilise les personnes autour de moi. Mais c'est important. Et il faut rester vigilant. Et aujourd'hui, en 2021, quel que soit le site sur lequel on va créer quelque chose, acheter quelque chose, on va toujours avoir des mots de passe à créer, des comptes à créer. Encore une fois, là, j'ai acheté récemment des leggings pour faire du yoga et j'ai dû créer encore un compte VIP dans le site e-commerce d'une marque éco-responsable, machin truc. Bon, c'est un peu fatigant, ça fait beaucoup de mots de passe à changer. Moi, j'ai vu mon Google Chrome m'a dit que j'avais plus de 150 mots de passe sauvegardés et donc je suis en train de petit à petit tous les modifier. Donc c'est bien, c'est un peu comme une hygiène de vie, c'est un peu comme jeûner régulièrement. C'est quand même important de changer régulièrement tes mots de passe. Autre astuce pour tes mots de passe, Donc de plus en plus, on nous demande des mots de passe à 8 caractères, dont une majuscule, une minuscule, un chiffre et parfois même un caractère spécial. Idéalement, dans ton mot de passe, tu n'as pas... Enfin, ce qui est écrit, ce n'est pas un mot qui apparaît dans le dictionnaire. Donc on évite tout ce qui est date d'anniversaire, prénom de ta nièce préférée, de ton chien, de la rue où tu habites, parce que tout ça, c'est un peu trop facile à détecter. On va préférer plutôt un mot qui ressemble à rien. Donc moi, des fois, je fais des trucs sur le clavier, là. Par exemple, je pourrais faire D-R-E-F. Voilà, c'est des lettres qui sont à côté sur le clavier. Ça m'a inspiré. Dref. Allez, hop, on y va. Un mot de passe avec Dref. Ensuite, tu peux choisir une série de chiffres. Alors, on essaie d'éviter 000, on essaie d'éviter 1, 2, 3, mais bon. Par exemple, 4, 5, 6. Dref, 4, 5, 6. Et puis, idéalement, tu peux te dire un truc. Par exemple, je prends les deux premières lettres du service sur lequel je suis et je vais les mettre au début, au milieu ou à la fin de mon mot de passe. Donc, par exemple, je pourrais faire Dref, G-O pour Google et 4, 5, 6. D'accord ? Ça pourrait être un mot de passe qui est assez sécurisé. En se disant peut-être que G-O, je vais le mettre en majuscule parce que c'est les lettres qui correspondent à Google. Si c'est mon mot de passe Amazon, je vais faire Dref, A majuscule, M majuscule, 4, 5, 6. Voilà, des choses comme ça. Et du coup, ça te permet de te rappeler assez facilement des mots de passe, de les changer assez régulièrement. Donc, tu changes la mise en page tous les ans, si possible. Tu peux les stocker dans un fichier, dans des applications de mots de passe sécurisés ou dans ton calepin. Et j'ai l'impression que cette année, avec le confinement, le calepin, c'est peut-être devenu la solution la plus sécurisée. Je suis en train d'évoluer un petit peu dans ma réflexion autour de ça. Enfin bon. Et puis communiquer le moins possible tes mots de passe autour de toi. Et voilà, bon après il y a beaucoup de bon sens dans tout ça. Voilà, j'espère que cette petite mise au point sécurité des données n'a pas été trop désagréable. C'est pas un sujet très glamour, mais c'est un sujet important. Donc je t'encourage à l'avoir quand même dans un coin de ta tête au moins une fois par an. De la même façon que tu te fais une semaine de vacances à la plage, une semaine de diète verte ou une semaine de digital detox, c'est important aussi de se faire peut-être une semaine de sécurité des données de temps en temps. C'est un sujet sur lequel moi j'avais été sensibilisée avant de partir à l'étranger en tant que VIE. On est des proies faciles en fait, les jeunes étudiants qui partent à l'étranger et qui travaillent dans des entreprises françaises. Alors moi, c'était pas mon cas, j'étais dans une toute petite micro-PME, mais bon, quand même, quoique. C'était quand même une PME qui travaillait pour la sécurité des données Internet pour des grands groupes, donc c'était aussi quelque chose. Et donc, on avait été sensibilisés au fait de garder une grande confidentialité sur le travail qu'on fait, sur nos données professionnelles, et autour d'un apéro à Shanghai dans un hôtel, ne pas divulguer des informations importantes. Donc on avait été vraiment sensibilisés à ça. J'avais trouvé ça assez intéressant comme formation, même si c'était un sujet sur lequel moi je travaillais déjà. Mais visiblement, on n'est jamais assez muni par rapport à ces sujets-là, parce que même si j'ai été sensibilisée, c'était à l'époque en 2015, je pense, et ben voilà, en 2020, je me suis fait pirater mon compte Facebook. Qui l'aurait cru ? Voilà pour aujourd'hui. Je t'embrasse, je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Tu as aimé cet épisode ? Like sur la plateforme de podcast sur laquelle tu l'écoutes. Tu peux aussi laisser un commentaire et je le lirai lors du prochain épisode. Et si tu souhaites suivre un accompagnement de coaching avec moi, tu peux aussi réserver ton coaching découverte. Le lien se trouve en description.